les enfants de Cronos.
Lionel Mazet, archéologue. Aujourd'hui, Notre-Dame de Lompon. La fin du XIe siècle est une grande période de renouveau du monachisme occidental. En 817, le concile d'Aix-la-Chapelle avait imposé la règle de Saint-Benoît dans tous les monastères d'Occident. Cette hégémonie bénédictine n'empêche ni les abus, ni les différentes interprétations. À partir du Xe siècle, Cluny, dont je vous ai parlé hier, fut le fer de lance d'une réforme qui visait une application plus stricte de la règle. Son succès fut phénoménal, et l'ordre clunisien à la fin du XIe siècle prêtait sévèrement le flanc à la critique. On l'accusait d'être trop riche, de manquer d'humilité et de négliger le travail manuel qui est l'une des obligations imposées aux bénédictins. L'hégémonie bénédictine est également remise en cause avec l'apparition de nouveaux ordres. Je vous ai parlé des chartreux qui suivent leurs propres règles. Ils ne sont pas les seuls. Face aux moines, on trouve également des chanoines réguliers qui suivent la règle de saint Augustin. Et pourtant, ce sont bel et bien des bénédictins qui deviendront les plus grands rivaux des cisterciens, des clunisiens, l'ordre cistercien. L'histoire commence en Bourgogne, à Molèmes. Robert, désireux de mener la vie la plus retirée possible, s'y installe en 1075 avec 7 compagnons. Le groupe cherche à mêler érémitisme d'un côté, travail et office en commun de l'autre. La fondation échoue à cause de son succès. De nombreux novices affluent, les donations s'accumulent, mais les dissensions surgissent et Robert peine à maintenir ses exigences d'austérité. Il préfère donc, avec l'accord duc de Die, le légat du pape que nous avons déjà croisé à propos de saint Arnoux de Crépy, de quitter Molèmes et de s'installer dans un nouveau monastère avec une grosse vingtaine de compagnons, un effectif déjà important. Les cistelles, des roseaux qui peuplent l'endroit, donnent leur nom à l'abbaye. Cîteaux. Robert, pourtant, est contraint de retourner à Molèmes. Il ne verra pas sa nouvelle fondation prospérer, car le succès est au rendez-vous. Le nouvel ordre se structure rapidement, sous les abbatiats d'Aubry et d'Étienne Harding qui succèdent à Robert de Molèmes. On choisit un habit écru, car la teinture apparaît déjà comme un luxe superflu. On opposera donc les moines blancs de Cîteaux aux autres bénédictins que leurs habits sombres font surnommer moines noirs. Voilà qui vous donne une idée de l'austérité prônée dans le nouvel ordre. La première abbaye fille de Cîteaux, La Ferté, est fondée en 1113. Pontigny, Clairvaux et Morimont suivront de peu. Des filles, oui, pas des dépendances. Là encore, Cîteaux s'oppose à Cluny et à son centralisme. Chez les moines noirs, une seule abbaye, Cluny, et des prieurés, tous sous son autorité. Chez les cisterciens, des abbayes indépendantes, et un chapitre général qui réunit chaque année le 14 septembre tous les abbés de l'ordre. Pour autant, la confiance n'exclut pas le contrôle. Chaque abbaye mère est responsable de ses abbayes filles que l'abbé doit visiter chaque année. Étienne Harding, troisième abbé de Cîteaux, en fut le grand législateur. Mais la grande figure cistercienne fut saint Bernard de Clairvaux. Il fut la plus grande figure du christianisme de son temps. Contrairement aux clunisiens, là encore, les cisterciens préfèrent créer de nouvelles abbayes au désert plutôt que d'intégrer des établissements préexistants. C'est ainsi qu'en 1131, l'évêque de Soissons, Jocelyn de Vierzy, fait appel à Saint-Bernard pour fonder une abbaye à Lompon, dans une vallée marécageuse en bordure de la forêt de Ré. Petite entorse aux habitudes cisterciennes, il semble que le lieu n'était pas entièrement désert. Qu'importe, il est suffisamment retiré pour les moines, possède de l'eau et du bois en abondance. L'abbaye bénéficia rapidement des largesses du comte Raoul IV de Valois, qui avait beaucoup à se faire pardonner de l'Église. Raoul était en effet marié à Éléonore, nièce du comte Thibaut de Champagne, mais un plus beau parti s'offrait à lui. Adélaïde, sœur d'Aliénor d'Aquitaine, qui était alors reine de France. Raoul IV, sous prétexte de consanguinité, fit annuler son mariage par les évêques de Noyon, facile à convaincre, c'était son frère, de Lens et de Senlis. Mais on ne contrarie pas ainsi le comte de Champagne. Il en appela au pape et, soutenu par Bernard de Clairvaux, encore lui, obtint l'excommunication de Raoul IV pour bigamie. Le roi soutint Raoul et les armes furent tirées. La mort du pape Innocent II et celle d'Éléonore mirent fin aux hostilités. Le roi Louis VII partit en croisade et Raoul IV et Adélaïde d'Aquitaine purent convoler en juste noces, mais couvrir l'abbaye de Lompon de dons pour la rédemption de nos péchés. Les dons furent assez importants pour que Raoul IV soit considéré comme le fondateur de l'abbaye, jusque-là assez pauvre. Lompon avait aussi la faveur des évêques de Soissons. Jocelyn de Vierzy, son fondateur, et Ansculf de Pierrefonds y furent enterrés. Nivelon de Chérisy lui fit don d'une tête de Saint-Denis, ramenée de Constantinople en 1204, c'est-à-dire après le pillage de la ville par la croisade. L'abbaye fut dotée de nombreuses terres, devenant un des principaux propriétaires terriens de la région. Jean de Montmirail, connétable de France sous Philippe Auguste, s'y retira et y mourut en 1217. Il fut béatifié en 1250. Après des débuts modestes, l'abbaye avait donc les moyens, au début du XIIIe siècle, de se doter d'une nouvelle église. D'une dimension équivalente à la cathédrale de Soissons, le nouveau monument fut consacré en 1227 en présence du jeune roi Louis IX, le futur Saint-Louis, et de sa mère, la reine Blanche de Castille, alors régente du royaume. Le couteau qui aurait servi à couper la viande du roi lors du banquet qui suit la consécration est toujours conservé à Lompon, un couteau classé monument historique. Il ne reste presque rien aujourd'hui de l'église qui accueillit Saint-Louis. La façade et les murs extérieurs de la nef en sont les seuls vestiges. Ils témoignent de ce qu'était l'édifice. Sobre, comme il convient à une église cistercienne, mais ample, élégant. Pas d'excès, certes, mais il s'agit toujours de vénérer Dieu. L'église mêle la tradition cistercienne et l'innovation gothique. Élévation à trois niveaux, originale chez les cisterciens. Mais, triforium aveugle, claire-voie courte, témoigne de la modestie recherchée. Fait intéressant, malgré les grandes dimensions de l'édifice, le rapport hauteur-largeur est le même que dans les édifices cisterciens du siècle précédent. Quelques années plus tard, lorsque Saint-Louis fondera l'abbaye cistercienne de Royaumont, les dimensions de l'église seront presque les mêmes qu'à Lompon. Il y a aussi des comparaisons intéressantes à faire avec l'abbaye d'Ourscan, près de Noyon, autre abbaye cistercienne à peu près contemporaine. À Lompon, le chœur et le transept ont disparu. À Ourscan, c'est la nef qui est manquante. Vendue comme carrière de pierre à la Révolution, l'église aurait été entièrement démolie si le comte de Montesquiou, déjà propriétaire des bâtiments conventuels, n'avait pas racheté le reste des ruines. Depuis 1804, l'ensemble du domaine appartient toujours à cette famille dont le nom trahit les origines gasconnes. Les bâtiments conventuels présentent plusieurs originalités notables. Premièrement, le bâtiment des moines, dont la façade fut modifiée au XVIIe siècle, offre un curieux mélange, les grandes fenêtres modernes étant encadrées par les massifs contreforts médiévaux. Autre particularité, l'église paroissiale du village est installée dans l'ancien cellier gothique. Le curé de Lompon avait racheté le bâtiment après la Révolution et y avait aménagé le lieu de culte. Cette disposition fut conservée lors du rachat de l'abbaye par le comte de Montesquiou. L'église est donc incluse dans une propriété privée. Si, comme je l'espère, je vous ai donné envie d'aller découvrir cette abbaye, n'oubliez pas de parcourir les rues du petit village jusqu'à l'ancienne porte fortifiée de son domaine, encadrée de quatre tours à flèches de pierre, presque un petit châtelet du XVe siècle. Vous y découvrirez les armoiries parlantes de l'abbaye, d'azur au pont de trois arches d'argent, un long pont donc, surmonté de deux fleurs de lys d'or. La tradition veut que Saint-Louis, après sa visite, ait autorisé l'abbaye à faire figurer ses deux lys sur ses armoiries. Trois jours, trois abbayes, trois ordres, et pourtant nous avons à peine effleuré la galaxie des ordres religieux médiévaux. Et je ne vous ai encore parlé que d'abbayes d'hommes. Alors demain, chers auditeurs, je vous parlerai d'une abbaye de femmes qui n'appartenait à aucun ordre. Une abbaye qui ne fut pas toujours exemplaire d'un point de vue religieux, mais qui est célèbre chez tous les amateurs d'architecture, l'abbaye de Morienval.